Oui, d'autant plus, je voulais vous demander s'il y avait un profil vraiment d'enfant plus sujet à des punitions un peu abusives. Je veux dire par là qu'on retrouve de plus en plus, enfin on retrouve, on décèle de plus en plus d'enfants avec multiples 10 ou des troubles du neurodéveloppement. Et souvent là, souvent ces enfants sont sujets donc à être incompris parce que je trouve qu'en général les enseignants sont pas forcément formés à accueillir et à la pédagogie envers ces enfants. Donc c'est souvent des enfants considérés comme mal élevés, virulents et donc souvent punis alors que c'est pas la bonne méthode pour ces enfants.
Oui, souvent puni,
mais aussi étiqueté. C'est-à-dire que plus tu dis à quelqu'un qu'il est quelque chose, plus il le sera aussi. Donc si tu veux dire d'un enfant tout le temps qu'il est un cancre, ça va pas lui permettre de comprendre que non, il n'est pas un cancre, que ça peut se passer autrement, d'une part, et d'autre part, en fait, il a peut-être besoin parfois de cadres un petit peu différents. Après, ça, c'est encore vraiment un très vaste sujet, les troubles du neurodéveloppement. Soit dit en passant, pour rebondir au tout début de la question, je pense pas qu'il y ait plus de troubles du neurodéveloppement actuellement. Je pense plutôt qu'ils sont mieux diagnostiqués, mieux repérés, qu'on est davantage sensibilisés. Voilà.
Alors moi je voulais ajouter par rapport à ce que tu disais que les enfants à ces âges sont en train d'apprendre. Je crois que tu as mentionné, enfin tu as dit ce terme-là d'apprendre.
Oui, la forme d'apprentissage par rapport à des erreurs qu'on fait et qu'on n'est pas conscient forcément d'avoir fait une erreur, etc. Donc je parle d'apprentissage au sens très global de la chose.
Oui, et justement, l'apprentissage c'est aussi en lien avec la transmission. Et Elena, tout à l'heure, à cette question-là, parler des neurosciences, il y a un fait qui est quand même super intéressant et que le cerveau, et notamment le cerveau des enfants, c'est qu'il apprend par mimétisme. Donc en fait, tout simplement, plus on va être agressif avec un enfant, plus il apprend à être agressif. Il apprend pas à corriger son comportement, à se dire « Ah oui, on attendait ça de moi, alors je vais faire ça ». Non, c'est du mimétisme.
Il reproduit ce qu'il voit.
On va être agressif,
93%.
Plus on va être injonctif, plus on va être avec des attentes irréalistes, en les déconsidérant, en étant condescendant avec eux, en étant dans la violence, qu'elle soit verbale, physique et tout autre, plus il va reproduire. Parce que le cerveau se construit comme ça. Donc il y a vraiment, ça rejoint vraiment le sens d'Otium, c'est de pouvoir être auprès des enfants dans cette phase de construction neurologique, mais pas que, de leur personnalité plus globalement et moins scientifique, dans l'expression de ce qu'ils sont, plus on sera à leur côté en tant qu'alliés, en tant que protecteurs, en posant un cadre qui leur permet d'être eux-mêmes tout en étant adaptés à une vie en communauté, parce que ce qu'on souhaite tous, c'est de pouvoir vivre en liberté et en paix dans la communauté. C'est vraiment l'essence d'Otium, quoi. Donc c'est aussi pour ça que un des projets phares de l'association, c'est l'école alternative.
Alors je rebondis un peu sur ce que vous venez de me dire et ça va aller sur ma question qui suit derrière, justement avant d'arriver à la deuxième partie. Ce projet d'école, justement, ça a été senti d'un besoin un peu fort sur le territoire. Et si oui, est-ce que derrière, il y a des objectifs qui vont en décliner sur du long terme, etc.
Je peux ? Ok. Alors oui, ça vient d'un besoin fort du territoire. Alors déjà, nous, en tant que parents, tout simplement, pour commencer, c'est ça qui a fait naître l'idée. Et ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, je reçois des appels toutes les semaines de parents qui me disent « Mais pourquoi vous n'êtes pas déjà ouvert ? Mais s'il vous plaît, je veux changer mon enfant d'école, je ne sais pas comment faire. » De qui tient l'école, qui est déjà ouverte.
N'hésitez pas à y aller pour aussi un peu plus trouver plus d'informations. Une dernière question vraiment avant de se faire une pause musicale et passer à la dernière partie. C'est quoi votre objectif à long terme ? Enfin, on a un peu quelques idées sur le court terme, mais sur le long terme, si je comprends bien, pour pas non plus déformer ce que vous dites, c'est vraiment l'école alternative, c'est vraiment ça, Otium, sur du long terme ou non ? pas que, pour bien définir.
Non, alors, pas que.
Vraiment pas que.
Ouais. Voilà, voilà. C'est bien ce que je
vraiment pas que. Autium, c'est vraiment. Alors, je sais que c'est vraiment très large, mais Autium, c'est vraiment le lien et la transmission. Et donc, quand on parlait tout à l'heure des ateliers, c'est des ateliers qui sont forcément en lien avec nos métiers d'accompagnante parentale, donc doula, mais pas que. Et notre souhait aussi de pouvoir accompagner des projets existants, c'est justement, comme je le disais tout à l'heure, de pousser les murs et de faire de la place pour tout le monde et d'être une sorte de tremplin pour d'autres personnes qui ont envie de s'investir dans proposer des ateliers, etc., pour proposer leur propre vision de n'importe quel sujet, tant que ça correspond évidemment bien à nos valeurs. Mais le long terme d'Autium, c'est surtout persévérer, en fait.
Et continuer.
Continuer d'offrir des alternatives. L'école en fait partie, mais en réalité, Autium, c'est proposer des alternatives dans tout, pourvu que ce soit en faveur du lien et de
la transmission.
Transmission. Ouais.
C'est un peu le mot d'ordre un peu de l'émission. Ouais. Je pense que c'est quelque chose que vous allez un peu nous en parler. Si vous le voulez bien, on va passer un peu à la deuxième partie de l'émission. Alors, on va se faire une pause musicale aussi. Je pense que les auditeurs aussi attendent la petite pause musicale entre deux. On va parler un peu de parentalité, de liens humains, de neurodéveloppement. On va un peu revenir, si vous le voulez bien, dans la deuxième partie. On parlera un peu d'école alternative. Vraiment, c'est la deuxième partie où on va appeler un peu à vos regards, mais avant toute chose, on va se faire une petite pause musicale avant de se retrouver.
Le cœur vidé par la souffrance des siens. Cet enfant reste là face au destin. Spectateur d'un monde où règne le silence. Sa peine sera de perdre son innocence. Esclave d'une vie qu'il n'a pu choisir. Enchaîné par la peur et de mourir. Mais comment pouvez-vous fermer les yeux? Croire que tout ira mieux.
Make top shape of my dear,
De retour sur l'émission Ici Londres sur le 99.1. On est toujours là, toujours présente, bien sûr, bien accompagnée avec Fleur. Tu es toujours là, normalement, non, Fleur, tu es toujours là.
Je ne suis pas partie.
Non, entre deux, tu n'as pas pris un bus, tu es restée dans les studios. Et nos invités aussi n'ont pas pris de bus entre deux, ni la voiture pour repartir. Donc, mesdames, on va reprendre un peu le sujet de la conversation. On était déjà un peu en train de commencer à être sur la partie 2. Notamment un peu sur la parentalité. Si vous le voulez bien, on va parler un peu de parentalité, de liens humains. Ça va peut-être reprendre un peu des réponses que vous avez dites et vous allez avoir l'occasion de les compléter. Est-ce que vous direz qu'aujourd'hui, que la parentalité est en crise ou en mutation ? C'est quoi votre regard dessus, vous, en tant que, aussi bien en tant que mère, mais aussi surtout en tant qu'actrice de la vie associative ?
On dirait pas que la parentalité est en crise. Et si elle est en mutation, je pense qu'elle a toujours été plus ou moins en mutation. Les liens humains, de toute façon, le faire famille, il est comme le faire communauté, il est toujours en mutation. La vie, c'est le mouvement et l'être humain a besoin de mouvement. Et donc, il est perpétuellement à la recherche de mieux être, de mieux vivre ensemble. Donc, il est la parentalité est en mutation et oui, c'est un constat qu'on peut vivre dans nos intimités. Quand on est devenu mère, ça a été une mutation individuelle et on sent bien effectivement que au niveau social, c'est aussi en mutation.
On parle un peu des parents. Enfin, je vais un peu avancer aussi la question, mais au-delà de la mutation, est-ce que pour vous, qu'est-ce qui fragilise le plus les parents aujourd'hui ? Alors, je ne suis pas mère de famille, donc je n'ai pas de regard. Vous en avez, vous avez un peu cité sans le dire que vous êtes aussi mère. Mais pour vous, qu'est-ce qui fragilise le plus les parents ? Si on peut aussi inclure les papas avec.
Alors, pour moi, c'est premièrement le manque de soutien. Sans aucune hésitation, on dit souvent il faut un village pour élever un enfant. C'est vrai, il est où le village concrètement ? Maintenant, on a beaucoup de familles qui sont éloignées géographiquement, qui n'ont pas forcément même de partenaires. On a des mamans solo, on a vraiment des parents qui sont isolés en fait et qui n'ont plus du coup la possibilité de partager les charges parce que faire famille, ça demande des charges. Même exister tout seul, ça demande des charges. Donc encore plus avec des enfants. Donc il y a d'une part ce manque de soutien. D'autre part, il y a donc la charge dont je parlais, globale, donc logistique, financière, surtout actuellement, voilà, on connaît les conditions financières de tout le monde un petit peu. Émotionnelle aussi, parce qu'on est une génération qui essaye de régler ses traumas, d'apprendre à réguler nos émotions parce que nos parents ne savaient pas forcément nous l'apprendre, tout en apprenant à nos enfants à réguler leurs propres émotions. C'est un travail qui est carrément colossal. Donc voilà, il y a ça. Il y a également le retour au travail qui est extrêmement précoce parce qu'on est dans une société qui est capitaliste et qui veut qu'on fasse de l'argent, concrètement. Donc avec des tout-petits de 2 mois qui sont séparés de leurs parents pour être mis à la crèche dans des conditions pas forcément idéales. Les pros font bien ce qu'ils peuvent, mais des fois, c'est pas toujours parfait parce qu'ils sont en sous-effectif, parce que c'est la merde, hein, concrètement. Donc ça, c'était les premiers points. Et le dernier point, selon moi, c'est la surcharge informationnelle. Les parents, ils sont bombardés d'informations, de conseils, de tata Odette, même parfois de conseils professionnels. De la part de médecins ou autres, hein, de tout professionnel sur Instagram, de spécialistes du sommeil qui sont parfois pas adaptés, parfois culpabilisants. Donc ça n'aide pas à être parent actuellement.
J'ai envie de rajouter aussi que j'ai eu un jour la sensation que l'enfant lui-même avait changé. Alors déjà, il faut savoir que historiquement, la parentalité a changé, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'un siècle, l'enfant était, comme vous disiez tout à l'heure, sous-considéré. Il était considéré comme moins qu'un adulte. Donc on ne prenait pas en compte forcément ses envies, on ne prenait pas en compte ses émotions, ses frustrations. Et là, justement, il y a un psychiatre à qui j'ai posé la question et qui m'a avoué que maintenant, désormais, les enfants étaient complètement intolérants à la frustration. qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'enfant de notre ère, de notre génération, nos enfants sont-ils différents des enfants d'il y a 50 ans?
Non, et d'ailleurs je vais juste rebondir sur le début où vous disiez que avant on n'était pas tolérant des enfants, on n'est toujours pas tolérant des enfants. Voilà Clémence, je te laisse compléter peut-être parce qu'après...
Non, effectivement, les enfants... Alors, on n'est pas psychiatre, hein, donc on ne saurait pas être plus royaliste que le roi. Nous, ce qu'on peut dire dans nos expériences et de par notre bagage de formation et de par, de toute façon, nos valeurs humaines, c'est que non, les enfants n'ont pas changé. Les enfants ne sont pas autre chose que des êtres humains. Déjà, la notion de... Moi, j'aime bien cette phrase de être en situation d'enfance. Ce sont des êtres humains qui sont en situation d'enfance. On ne sort pas, on n'entre pas d'un état d'enfant pour en sortir. On est en situation d'enfance. Et la frustration, c'est un état émotionnel qui touche toute personne qui possède un système émotionnel, en fait.
Même les adultes.
Enfin, je sais pas, on a quand même tous fait l'expérience de gérer sa frustration. C'est facile pour personne. Et justement, on a aussi un éclairage. Les enfants d'aujourd'hui ont la possibilité d'être accompagnés différemment grâce aux neurosciences affectives et sociales qui permettent de mettre un éclairage sur la manière dont on peut accompagner les enfants à travers leurs différentes émotions ou leurs différents obstacles de vie. Donc la frustration des enfants d'hier était gérée
à coup.
Parce qu'il n'y avait pas d'espace d'écoute pour les enfants. Aujourd'hui, on essaye, mais pas qu'avec les personnes en situation d'enfance, avec tout le monde. Il y a cette mutation sociale globale de faire en sorte que tout le monde se sente entendu. Et la frustration, c'est pas autre chose que de ne pas se sentir entendu. Un enfant, et nous, on peut, pour parler de notre cas personnel, parce que on vient parler des enfants dans leur globalité et on vient faire des généralités sur une génération d'enfants qui donc ne tolérerait plus la frustration. Nous, à titre personnel, nous avons deux enfants. Enfin,
chacune a deux enfants. Ouais. Voilà.
Ce qu'on peut faire de l'expérience.
Ah pardon, oui, j'ai fait une erreur dans ce que j'ai dit. Chacune, on va dire, a un enfant, ou alors je dis des bêtises,
oui, c'est
encore.
Ça. Non, chacune a un enfant.
D'accord,
un enfant chacune.
Désolée, je vous ai donné un enfant supplémentaire. Pardon.
Oui, non, merci.
Excusez-moi.
C'est que on a eu à gérer bon nombre de frustrations parce que de toute façon. L'expérience humaine est faite de frustration. Un enfant, il naît totalement dépendant de ses figures d'attachement et de référence. Il ne sait pas marcher, au début, il ne sait pas s'asseoir, il ne sait pas parler, il ne sait pas se faire à manger tout seul. C'est frustration sur frustration. Et ça vient aussi avec la notion de persévérance, de résilience, etc. Les enfants ont une capacité à la résilience qu'on pourrait croire infinie. En réalité, plus on les contraint à utiliser cette résilience, moins ils en ont et plus ça donne des adultes névrosés. Mais voilà. Et donc nous, à titre personnel, la manière dont on va gérer ces frustrations, j'ai pas meilleure résolution de conflit, on va dire, avec mon enfant que en lui disant je sais que c'est frustrant pour toi, je sais que là ce que tu vis c'est pas facile, mais rien de ce que je dis ou fais n'est fait contre toi. Et en fait, c'est cette intention posée face à un enfant, qu'on soit son parent, qu'on soit son tuteur, qu'on soit son professeur, qu'on soit un éducateur, qu'on soit... Peu importe, c'est de faire sentir à l'enfant que là, ce qu'on attend de lui, c'est pas contre lui. C'est en faveur d'une logistique, d'une écoute. Enfin, et en fait, tout peut être traversé par l'enfant, même la frustration, même la colère, même la tristesse, s'il se sent entendu. Et ça, je pense qu'on peut tous en être témoins. Quand on est, même à l'âge adulte, quand on est auprès d'une personne qui nous accueille inconditionnellement dans ce qu'on est en train de traverser, mais tout devient facile. même le deuil. On peut tout traverser en tant qu'être humain tant qu'on a à nos côtés quelqu'un qui est en capacité d'accueillir, d'écouter, de soutenir. Rien ne remplace ce qu'on est en train d'expérimenter. La colère, la frustration, le deuil, rien. Ce qu'on est en train de le traverser, on est en train de le traverser. Personne ne peut nous sauver de ce qu'on est en train de traverser. En revanche, on peut faire en sorte de ne pas faire sentir les autres tout seuls. Et c'est ça vraiment qui, moi, me sensibilise beaucoup dans les situations d'enfance, c'est qu'on a tendance à faire croire aux enfants qu'ils sont seuls. Oui, non, tu me fais chier, je suis en train de cuisiner. Bah, oui, mais là, en fait, j'avais besoin de ma maman. Et voilà, c'est ça. C'est pas facile, hein.
Ce que je vous propose, mesdames, si vous le voyez bien, c'est que le temps avance et on va bientôt passer à la troisième partie. Je vous retrouve pour une petite courte pause de 3 minutes pour une pause musicale avant de passer à la troisième partie qui va être dédiée à comment adhérer aussi. Alors, on en avait un peu parlé.
وانا يا صغير اوه انتي يا انتي يا ربنير من غيرك ما كاين وحده عشقتك وانا يا صغير
دامو كور لا توجور سا بلاس مالغري لو تان كي باس جو بونس انكور ا لوي نوز ايرور جو بريفير كون لي افاس لي جورنال سو لي رانفاس سي توجور عشقك ما بان
Oh,
De retour sur votre troisième partie de l'émission Ici Londres qui arrive à sa fin. Alors forcément, c'est le petit moment où vous prenez un stylo, une feuille ou de quoi noter les contacts de tout le monde. Comment on peut adhérer à l'association ?
Alors nous, on a un Hello Asso. C'est assez simple, on peut trouver le QR code ou même le lien.
Sur notre Instagram, notre Facebook, vous pouvez nous demander par mail à EC comme Elena Clémence, BG comme Boussard Gantier, pro@gmail.com si vous en avez besoin. On essaye également de mettre des affiches un peu partout pour que vous puissiez en retrouver, mais franchement, pour le moment, c'est pas encore. Voilà, il n'y en a pas partout, on fait ce qu'on peut.
En tout cas, vous pouvez les retrouver à la radio HDR si jamais vous passez dans le coin 9 rue Georges Braque. Voilà, c'est fait.
Voilà, super. Les personnes qui peuvent adhérer à Otium, c'est vraiment tout le monde en fait, hein, mais je pense que vous l'avez compris parce qu'on l'a vraiment bien exprimé depuis le début.
La porte est ouverte à tout le monde.
Voilà, les pros, les familles, les curieux, les personnes qui partagent nos valeurs, on est là, on vous attend, pas de soucis. Les manières de soutenir notre association, elles sont quand même diverses et variées parce qu'effectivement, on a actuellement besoin de locaux, par exemple. Mais les locaux, ça peut aussi être, je sais pas si vous avez des grands-parents qui ont un très 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 grand jardin et qui ont beaucoup de sous et qui aiment les enfants, par exemple. Mais on peut construire sur des jardins, des locaux. Nous, on a besoin de 150 mètres carrés intérieur minimum parce qu'on a des règles à respecter, par exemple pour les dortoirs, etc. Donc il faudrait mettre aux normes ERP, bien sûr, mais donc 150 mètres carrés intérieur et un accès à l'extérieur à moins de 15 minutes à pied, mais à petit pied de maternelle. Donc c'est quand même ce qu'il faut penser. Puisqu'on est quand même une école du dehors, on n'a pas beaucoup parlé de l'intérieur de l'école, mais en fait, Otium, c'est une école qui prévient les violences éducatives ordinaires, qui prépare les enfants aussi à faire face à ça, à les reconnaître, donc les identifier, mais aussi à les contrer. C'est-à-dire que beaucoup de parents nous disent « Oui, quand vous mettez vos enfants dans une école alternative, ils sont dans une bulle, comment font-ils après ?» Nous, on ne les met pas dans une bulle, on les respecte, effectivement, ce qui pourrait sembler être une bulle par rapport au monde extérieur actuel, mais on les forme aussi à affronter ce monde extérieur. De la même manière, pour faire le parallèle, qu'on fait du zéro écran, mais que dans nos programmes, on a prévu de leur apprendre à savoir utiliser des écrans de manière adaptée et saine et sécuritaire pour eux. Donc bon, voilà, ça c'est la petite aparté. Mais donc il y a effectivement notre besoin de locaux, donc on fait le tour des mairies. Là, on espère avoir des pistes un peu plus concrètes prochainement après les élections municipales. Également, on a besoin de sous, forcément, parce que s'il faut faire construire, on a besoin de sous.
On peut faire des dons financiers.
Tout à fait. Sur le Hello Asso, en fait, il y a deux façons différentes. Il y a soit l'adhésion. Alors, il y a plusieurs piliers d'adhésion selon l'investissement qu'on veut mettre. On peut vraiment avoir des gens qui adhèrent juste pour avoir la newsletter une fois tous les 6 mois. On ne va pas encombrer les boîtes mail, pas d'inquiétude. On a aussi les piliers avec un petit peu d'investissement, des petites tâches, par exemple, juste déposer quelques flyers de temps en temps, imaginons. Et puis, on va avoir des investissements un peu plus importants. Donc, on n'a pas forcément besoin de diplôme dans la parentalité. Ça peut nous être utile. En l'occurrence, on a besoin de peaufiner notre ingénierie pédagogique si des enseignants, des directeurs, des directeurs passent par là, mais on a aussi besoin d'une reprise et de l'ajustement de l'administratif, des contrats RH si jamais. On a des besoins dans la communication des personnes pour tenir les réseaux, donc ça c'est des choses qui sont déjà un peu plus accessibles. Donc pour le projet d'école, on a aussi besoin de recherche de partenaires, donc de contacter les gens par mail, de se déplacer dans des lieux pour, comme le Fabalab en l'occurrence, hein, pour pouvoir voilà, faire des ententes entre nous. On a aussi les réflexions sur le design, l'aménagement de l'école avec les différents pôles, les mises en place des règles en matière de risque et d'hygiène de sécurité, la création d'un site internet, voilà, donc on a vraiment, et puis des professionnels pour les ateliers comme on disait tout à l'heure,
pour
donc,
animer,
c'est ça, oui, tout à fait. Donc on a vraiment, pour ceux qui voudraient s'investir, tellement de manières différentes de s'investir que venez. Et puis pour ceux qui hésiteraient encore, au pire, me contacter, bah, ça coûte rien, c'est gratuit, ça n'engage en rien. Donc vous pouvez nous écrire et puis voir si vous souhaiteriez prendre une place selon ce qu'on peut faire également.
Vous avez une page Instagram aussi dans laquelle on peut peut-être vous contacter ou vous suivre.
Oui, je l'ai cité au début effectivement, mais c'est vrai que j'ai beaucoup enchaîné.
C'est @otium-asso. A2SO,
tout à fait. Sachant que les QR codes se retrouvent également sur les flyers, donc du coup qui sont à HDR actuellement.